sur la côte vendéenne. Il est 16h.
Neptune FM.
Écoutez et découvrez.
Neptune FM et les productions du Café de la Mogette présentent Un cheveu sur la langue, un...
Bonjour. Comment allez-vous, ce joueur? Oui, alors, bon, pour ceux qui ne savent pas, parce que j'ai du monde, ils me regardent. Le joueur, comment c'est pas le soir, c'est pas le matin? C'est le bon joueur, c'est lundi, voilà, c'est pour ça. Donc c'est une habitude qu'on a pris depuis très longtemps d'ailleurs, de dire bon joueur plutôt que bonjour ou bonsoir, parce qu'on ne sait pas trop. Bah oui, c'est vrai, à 16h l'émission, voilà. Et aujourd'hui, donc je vous disais, j'avais du monde dans les studios. Alors j'ai d'abord, on va commencer par les dames, parce qu'on est poli. Hein. J'ai avec moi, il y a Annabelle Chauvito.
Bonjour.
Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Bonjour, oui, bonjour. Et puis il y a aussi Benoît qui est là. Bonjour Benoît.
Bonjour Yves.
Ça va?
Très bien.
Alors Benoît, je lui dis, bon, d'abord on parle d'Annabelle Chauvito que tout le monde connaît. Si vous la connaissez pas, tant pis pour vous. C'est une dame qui s'occupe du patrimoine. Elle fait plein de choses. Elle a des fouilles. Je ne dirais pas des fouilles curieuses parce que ça serait pas bien. Mais elle fouille beaucoup hein, sur l'île à la recherche de notre temps passé. Voilà. Et elle a sorti un bouquin. C'est pour ça que Benoît est là, c'est l'éditeur, bien sûr. L'éditeur très connu aussi de Lille, bien sûr. Les éditions Ilaise, parce que depuis... On t'avait reçu il y a quelques temps déjà, hein.
Régulièrement, oui. Et avec toi la dernière fois, c'était il y a un an, je crois.
Oui, donc on fera un point sur ce qu'il y a, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses cette année. C'est incroyable, c'est impensable. Hein. Mais on n'en est pas là, on va d'abord parler avec Annabelle, donc qu'est-ce que t'en penses, hein, on est...
Oui, c'est le sujet d'intérêt.
C'est le sujet d'intérêt. Alors, oui, Annabelle, donc, tu as sorti aux éditions Ilaise un bouquin qui s'appelle « L'île-Dieu, sentinelle de l'Atlantique, histoire de la défense d'un territoire insulaire ».
C'est ça, tout à fait.
Et ce bouquin est doublé de ce qu'on appelle les jeudis de l'histoire. Hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a des jeudis d'histoire. Là, on parle des pompiers qui existent à l'île-Dieu. Il y a une caserne de pompiers à l'île-Dieu. Il y en a qui croient qu'elle n'a pas, mais bon, tant pis. On en a parlé avec Roman la semaine dernière dans cette même émission. Et là, actuellement, l'exposition des pompiers continue, mais il y a les jeudis d'histoire. Et de jeudi dernier, il y avait le premier volet. C'est un peu comme dans le bouquin, il y a deux volets. Où Annabelle expliquait donc l'histoire de l'île-Dieu à partir des premiers hommes, hein, jusqu'au vieux château, hein, à peu près, c'est ça?
C'est ça, alors c'est plutôt effectivement sur la défense de l'île-Dieu.
Oui, c'est ça.
Donc vraiment l'axe de ce livre et puis des conférences qui sont proposées en parallèle, c'est vraiment sur la défense de l'île, de l'époque gauloise jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Comment l'île et les îlets, et aussi bien sûr toutes les autorités compétentes, ont contribué à défendre cette île, et surtout aussi comment les îlets se sont adaptés donc au débarquement ennemi et à tout ce qui allait avec.
Oui, parce que ça commençait à faire ce qu'on appelle la redoute romaine, qui n'est pas romaine. Hein.
Pas du tout, elle est gauloise.
Oui, mais ça, tout est dans le bouquin. Si les gens veulent savoir, s'ils sont curieux, achetez le bouquin. C'est un bouquin. Et puis, vous venez aussi à la conférence, parce que c'est vrai que moi, j'avais lu le bouquin déjà. C'est drôle, j'ai juste lu la première partie jeudi dernier, et je suis allé à la conférence, et puis on retrouve le bouquin un peu, c'est normal, mais avec des détails encore aussi. Enfin, je sais, ils sont complémentaires. Voilà, il y a le bouquin et la conférence. Et ça permet justement de bien écouter. Et maintenant que j'ai lu tout le bouquin, maintenant là, jeudi prochain, j'attends avec impatience jeudi prochain pour la suite de la conférence. Bon, mais ce n'est pas moi qui vais parler de tout ça, c'est toi qui vas te parler de ça d'abord. Alors donc, Annabelle, donc, tu travailles pour le patrimoine?
C'est ça, oui, je suis la responsable du service patrimoine. Oui. Donc je m'occupe de toute la petite troupe qui travaille avec moi donc, pour la valorisation et la recherche au niveau patrimonial de l'île-Dieu, donc pour la mairie. Donc on est une équipe de 4 personnes à l'année, et puis ensuite on a des saisonniers à la belle saison. Mmh. Et donc moi, mon job, c'est surtout de travailler à la conservation des sites patrimoniaux. Donc là, on a commencé des travaux à la Citadelle cette année, qui font un petit break estival en ce moment, mais on va les reprendre à partir de septembre, et ils devraient se terminer donc à la fin de l'année, voire début 2027. Et puis, voilà, je m'occupe aussi de tout ce qui est valorisation du patrimoine à travers les visites, des animations, voilà, tout un tas de choses différentes, des panneaux de valorisation. Mmh. Donc ça, je le fais pas toute seule, hein, j'ai vraiment mon équipe qui est derrière moi et voilà, on a des très très bons guides au service patrimoine.
Bah oui.
Et puis bien sûr, je m'occupe aussi de la recherche archéologique. Donc je fais de plus en plus d'opérations d'urgence. Donc on a des sites qui apparaissent en trait de côte du fait de l'érosion du trait de côte. Mmh. Donc voilà, s'il y a une alerte, je prends ma caisse à outils et je fais des interventions d'urgence. Donc ça permet en fait de vraiment enlever les informations de la côte, en tout cas de les observer, de les étudier avant que ces informations, ces objets, ces sites ne partent à la mer. Mmh. Donc ça nous permet d'avoir parfois sur des petits vestiges qui payent pas de mine, des sources d'informations assez étonnantes sur des périodes anciennes qui sont très mal documentées à l'Île-Dieu. Donc voilà, ça nous permet de comprendre un petit peu comment vivaient nos aïeux sur l'île à des époques très reculées.
Et de découvrir vers Gilbert, par là-dedans, enfin je ne vous dirai pas exactement, par exemple une sépulture de l'âge du fer.
De l'âge du bronze,
monsieur. Du bronze,
exactement. Oui,
du bronze. Là, tu vois, important. Hein, voilà. Et donc celle-là, ben, vous pouvez justement, tu fais des visites, tu fais toujours le Kerchalon et...
Oui, et je fais aussi en parallèle à mes travaux de recherche une visite sur l'actualité de la recherche archéologique. Donc c'était quelque chose qui m'était beaucoup demandé. Donc cette année, je me suis jetée à l'eau. Et ça sera que cette année d'ailleurs. Donc c'est vraiment sur les recherches récentes que j'ai pu faire et vraiment les informations que ça a pu apporter. Donc c'est une balade qui se passe sur la plage de Kerchalon jusqu'à Gilberge. Donc c'est assez sympa. Donc on voit des sites que j'ai étudiés récemment et puis bien sûr on peut pas tout voir. Donc je parle aussi pendant cette sortie de sites qui se trouvent ailleurs sur l'île et que j'ai pu étudier là dans les trois dernières années.
Donc une cité gallo-romaine, c'est ça?
Une villa gallo-romaine.
Ouais. Bon, qu'on ne voit pas forcément parce que c'était en dessous une maison qui est construite dessus, mais il reste des vestiges intéressants. Pour ceux qui savent voir et étudier et interpréter ce qu'ils voient.
Exactement.
Parce que tout ça, ça ne vient pas tout seul, il faut quand même quelques études pour ça. Non?
Non, pas du tout.
Non. Bah, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de dire oui, alors ceux qui lisent l'histoire, bah, ils disent ce qu'ils veulent parce qu'en fin de compte, on ne peut rien vérifier. C'est quand même un peu plus scientifique que ça, non? Oui.
Ah oui, hein, c'est vraiment assez pointu. Et puis derrière, on a le service régional d'archéologie qui valide ou qui invalide nos demandes de fouilles et nos rapports, en fait. Donc il faut être vraiment dans la perfection.
Voilà. Et puis j'ai appris justement par toi, puis au cours de ces balades et de tout ce que j'ai pu écouter, qu'il y avait des gens spécialisés dans les os comme toi, hein, c'est ça? Dans les os. T'as essayé sur les ouzous de porc ou les ouzous de vache, tout ça.
Voilà. Moi, je suis plutôt os humain, mais les ouzous de porc et de vache, on est plutôt d'autres spécialistes qu'on appelle des archéozoologues.
Voilà, donc oui, tu racontais justement qu'ils étudient des trucs, ils trouvent des petits bouts de machin, puis ils peuvent te dire à qui ça appartenait, etc.
Ouais, j'ai une collègue qui, sur une petite dent de poisson qui fait à peine 2 mm, elle arrive à définir qu'est-ce que c'est comme poisson, si c'est un individu adulte ou pas. C'est assez incroyable.
Un gars, une fille, peut-être.
Non, bah, peut-être pas.
Et puis, il y en a d'autres aussi qui étudient les tessons de poterie.
Oui, tout à fait.
Ils arrivent à dire si c'est du l'âge de bronze, justement, ou
c'est
pas,
ça,
ou avant ou après.
Tout à fait, par rapport au dessin qu'il peut y avoir dessus, aux incisions, à la forme des céramiques, ils sont capables de dire, effectivement, de quelle époque il s'agit, de quelle culture aussi, donc... Ouais, il y a vraiment plein de spécialités. Il y a des spécialistes aussi en pollen avec leur microscope qui vont réussir à définir quel arbre pouvait pousser à l'époque qui est fouillée. On a des spécialistes des charbons, enfin vraiment de tous les milieux. C'est assez pointu, ouais.
D'ailleurs, dans le bouquin, il y a une page, enfin qui n'est pas consacrée, mais où tu montres justement des figures de poterie, des restes de poterie qui ont été dessinés par celui qui a étudié ça justement, et puis pourquoi que c'est de l'âge du fer et pourquoi c'est de l'âge du bronze, etc. Quoi.
C'est ça, ouais. J'ai un collègue qui s'appelle Christophe Mété, qui travaille pour l'INRAP, qui est céramologue donc, et qui a étudié la collection de céramiques qu'on a découverte à la pointe du Châtelet. Hein. Bien sûr, c'est pas des belles poteries, c'est des morceaux de poterie, des morceaux de céramique. Et donc, par rapport au décor de ces tessons, il a été capable de dire que ce site est occupé depuis le néolithique et quasiment de manière continue jusqu'à l'époque gallo-romaine, donc jusqu'à après les Gaulois.
Donc les Romains, c'est pas eux qui ont fait la redoute.
Non, c'est voilà. Les Gaulois.
Hein, bon, d'abord, ils ont peut-être fait la redoute à Roubaix, mais pas l'île-Dieu.
Non.
Alors, qu'est-ce que tu perds justement ce bouquin? Parce qu'il est vraiment très intéressant ce bouquin, comment l'île-Dieu se défendait. Parce que vraiment, comme l'île-Dieu, c'était une île, hein, c'était donc une espèce de sentinelle de l'Atlantique, comme c'est marqué dans le titre. Et donc, eh ben, il fallait la défendre, cette sentinelle, parce qu'elle était bien sûr convoitée par ceux qui passaient, comme c'était pratique, c'était justement un petit pied à terre avant de commencer à voir plus grand.
Hein, c'est ça. Ouais. Effectivement, donc on observe à l'île-Dieu, c'est marrant parce que c'est vraiment un échantillon de ce qui pouvait se faire ailleurs en France, voire plus largement en Europe. Et on voit au fur et à mesure du temps que la défense de l'île-Dieu a toujours été très importante hein, pour les instances compétentes, que ce soit pour le ministère de l'armée ou autre, parce que cette île déjà, elle est plutôt stratégique par rapport à sa géographie. Hein. Elle se trouve entre deux embouchures de fleuves importants, donc entre la Loire et la Gironde. Mmh. Et donc, si des ennemis avaient réussi à prendre l'île, hein, peu importe l'époque, ils auraient eu le contrôle total sur le commerce maritime entre ces deux fleuves.
Oui.
Et vraiment, c'était là où les routes commerciales étaient les plus importantes hein, sur toute cette zone de la côte. Et donc, on transportait que très peu, finalement, les marchandises par voie terrestre autrefois, mais c'était surtout par voie fluviale et maritime. Donc, s'ils avaient réussi à prendre l'île, ça aurait été vraiment un coup fatal sur toute cette économie. Et en plus, ils auraient eu un point avancé face aux côtes françaises pour ensuite préparer un débarquement. À l'époque des corsaires, ils auraient pu, s'ils avaient pris l'île-Dieu, les Anglais, pouvoir faire de l'eau, juste remplir leur bateau avec de l'eau douce, prendre de la nourriture sur l'île, préparer leur bateau, etc. Mm-hmm. Donc il ne fallait pas que cette île soit prise, et on voit qu'au fur et à mesure du temps, ces défenses, elles s'adaptent vraiment à cette problématique. Et voilà, on va construire des structures, des infrastructures parfois très onéreuses pour éviter qu'elles ne soient prises.
Voilà, et parce que l'île-Dieu, c'était une espèce de refuge en quelque sorte. Tu vas voir, c'est la transition avec le titre de la chanson, parce qu'on va faire une pause musicale. Et donc c'est Stéphane Côté qui chante, ça s'appelle Refuge, et il parle justement d'une île qui pourrait très bien être l'île-Dieu.
Le ciel emporte la mer vers l'autre bout de la terre. Sur la grève, un millénaire adouci de rondes pierres. Sur le sable salutaire, des pas laissés en arrière s'effacent aux vagues mystères du marcheur. Cette calme délivrance, le cœur bat comme à l'enfance, euphorisé par l'immense, au vent parfum de résurgence. Du regard on cherche une île, un refuge à l'inutile, on y échoue à des mille, vérité sainte. Millions d'années qui se bercent dans ce va-et-vient, l'immense agité caresse et apaise le chagrin. Évadé du vaste moule, du pénitencier des foules, j'apprivoise de pensées douces. Le temps fugueur et farouche, habitant d'un autre monde où se vendent les secondes, je découvre entre les dunes le vaste calme pour fortune. Des millions d'années qui se bercent dans ce va-et-vient, agité, caresse et apaise le chagrin. Mmh. reste que des souvenirs qu'emportent au loin les navires. Dans les villes du monde entier s'évaporent aux cheminées les mers, les mystères rencontrés, l'horizon de liberté. Des millions d'années qui se bercent dans ce va-et-vient, l'immense agité caresse et apaise le chagrin. Des millions d'années qui se bercent dans ce va-et-vient, l'immense agité caresse et s'en retourne.
Stéphane Côté, Refuge, ça parle bien des îles, est-ce que c'est les j'aime bien ces millions d'années qui se bercent dans l'immensité, l'immense agité. J'aime bien le truc. Voilà. Donc, on parle de ça dans ce bouquin, donc, parce que là, on est en train de parler avec Annabelle Chauvitaud, et puis avec Benoît aussi qui est là, du bouquin qui est sorti, qui s'appelle L'île Dieu Sentinelle de l'Atlantique, et qui relate justement tout ce qui a eu cours pour la défense de l'île tout au long des siècles. Ouf, depuis le néolithique, n'est-ce pas? Et donc, au départ, c'était un petit peu bon, bah c'était pour le temps. Puis vers le Moyen Âge, hein, au début du Moyen Âge même d'ailleurs, on a commencé à avoir des terres qui appartenaient à des ducs, des machins, des choses. Et puis eux, ils ont dit oh là là, nous on va avoir un truc parce que si on veut nous attaquer, on va répondre et puis on fait en sorte de pouvoir se réfugier quelque part dans une chose qui va pas être du carton pâte. Et donc voilà qui apparaît le vieux château maintenant, ce qu'on appelle le vieux château, qui à l'époque était très neuf.
Ah ben à l'époque il était neuf, oui.
Ah oui, c'est ça.
Donc ouais, en effet, donc la première vraie structure défensive de l'Île-Dieu, c'est la pointe du Châtelet, donc comme on disait, qui date des Gaulois, avec son gros rempart, qui devait être en plus plus haut, parce qu'il y avait une structure en bois probablement par-dessus. Mmh. Et puis plus tard, au Moyen-Âge, effectivement, on a construit juste à côté, donc c'est ça qui est assez marrant, le vieux château. Donc cette île au Moyen-Âge, elle appartenait à un seigneur qui n'habitait pas à l'Île-Dieu, mais sur le continent, dans le village actuel de La Garnache,
ouais.
Et qui possédait comme ça une grande partie du nord-ouest vendéen, dont les trois îles que sont Yeux, Noirmoutier, mais aussi l'île de Boin. Aujourd'hui, Boin, c'est dans le Marais, mais à l'époque, c'était une île.
Oui.
Et donc, il va falloir défendre cette île des invasions ennemies. Alors le problème, c'est qu'on va construire ce château, hein, qui était tout à fait au goût du jour, hein, puisqu'il a commencé à être construit au XIVe siècle, et il a été construit sur la côte rocheuse, c'est-à-dire qu'il était loin des zones de débarquement ennemies. C'est-à-dire que si les ennemis voulaient attaquer le château, ils ne pouvaient pas s'en approcher depuis la mer, parce que là, sur la côte rocheuse, c'est quand même hyper dangereux pour les bateaux.
Oui, à l'époque.
Donc si les ennemis voulaient débarquer à l'Île-Dieu, fallait qu'ils débarquent à l'opposé du château, c'est-à-dire sur la côte sableuse, celle qui fait face au continent, là, entre Port-Joinville et la pointe des Corbeaux, qui était vraiment la côte abordable de l'île. Et ensuite, les ennemis devaient traverser l'île à pied pour aller attaquer le château. Donc on les voyait arriver de loin, mais ça n'empêchait pas qu'ils commettent des exactions sur les habitants de l'île, évidemment, quand ils occupaient l'île. Le château, c'était vraiment une dernière base, si tu veux, qui permettait de tenir la place, mais ça n'empêchait aucunement les ennemis de débarquer sur l'île.
Bah, les dommages collatéraux, quoi. Faut pas oublier que l'île, il n'y avait pas d'arbres hein, à l'époque.
Alors, au Moyen-Âge, si, il y en avait.
Pas, ouais,
sinon,
c'est...
ils n'auraient pas pu construire le château,
bah,
ça aurait été compliqué.
C'est bête.
Mais c'est plutôt à partir du XVIIe ouais, qu'effectivement, petit à petit, l'île va être complètement.
Déboisée.
Dénudée. Et là, ça va devenir compliqué pour la population et ce manque d'arbres.
Bah oui, ils ont failli faire comme à l'île de Pâques, alors, en fin de compte.
Bah oui, quasiment. Hein. Ouais, ouais.
C'est ça le problème. Bah oui, parce que c'est pas tout de prendre du bois pour chauffer, mais il faut peut-être en mettre d'autres.
Bah, c'est ça, en fait, le reboisement de l'île, c'est juste entre les deux guerres, donc c'est quelque chose d'assez récent.
Assez récent. Et donc ce vieux château, il a eu des transformations, hein, il a été...
Oui, il a... alors on a très peu d'archives hein, sur, bah, sur le moment où le château a existé en tant que château défensif. Mmh. On en a quelques-unes, on sait qu'il a été pris par les Anglais pendant la guerre de Cent Ans, ils sont restés quand même sur place pendant 37 ans. Mmh. Et puis là, on a retrouvé une archive dans les archives de Poitiers, une archive judiciaire qui est assez, assez sympa, où en fait, on nous explique, donc ça date de 1404, que cette année-là, on a eu deux débarquements anglais, et on a notamment le capitaine du château qui, en fait, est jugé pour avoir tué un îlet par mégarde. Et cet îlet, on a son nom, il s'appelait Monsieur Noiron, et il est venu, donc il faut imaginer le château en pleine alerte, les Anglais qui débarquent. Et ce gars de l'idiot, il est venu mettre ses bœufs à l'entrée du pont-levis, parce qu'il voulait pas sans doute que les Anglais lui chipent. Sauf qu'il gênait tout le monde, donc on pouvait plus remonter le pont-levis. Donc il s'est fait rouspéter par le gouverneur. Dans les archives, c'est marqué qu'il a eu des mots malicieux, mais on pense que c'était, voilà, ils se sont disputés clairement. Et après, donc il repart avec ses bœufs, puis il revient un petit temps après, mais cette fois-ci avec une mesure de blé. C'est une sorte de contenant en bois où on mettait le blé. Et là, il rentre dans le château et il met ça vraiment à l'entrée du château. Donc pareil, ça gênait tout le monde et tout. Donc le capitaine du château lui demande de virer ça. Et il ne veut pas l'entendre, il n'en a rien à faire. Et donc au bout d'un moment, le gouverneur, la pression montant et tout, eh bien, il va lui donner un coup sur la tête avec un bâton, parce qu'il était énervé, on le comprend. Et donc après, le père Noiron est rentré chez lui. Hein, vraiment, les archives nous expliquent ça. Et puis le lendemain, bah, il va pas du tout se réveiller. Hein, il va sûrement avoir un gros souci avec ce coup de bâton et il va en mourir. Donc on a retrouvé une archive judiciaire qui est le jugement justement du capitaine du château pour cet homicide involontaire. Alors il sera acquitté, mais ça nous permet quand même d'avoir des billes sur l'intérêt de ce château à l'époque. Donc ça nous permet de voir que les gens de l'île pouvaient clairement aller s'y réfugier, hein, peut-être avec certaines de leurs richesses. Alors sans doute pas tous les habitants, mais au moins quelques-uns. Et que bah, il pouvait y avoir comme ça parfois des engueulades, hein, il faut le dire clairement, avec les habitants de l'île et les soldats du château.
Et puis après, bah, on apprend aussi qu'il y a eu des défenses en étoiles autour.
Oui, c'est ça.
Mais
en
avant
fait,
celle de Vauban, parce que ça aussi, c'est pareil. On a dit c'était Vauban, mais ça n'a rien à voir.
Alors ça n'a rien à voir, c'est voilà, beaucoup plus ancien. Mmh. En fait, à l'époque de François Ier, l'artillerie va évoluer vraiment de manière assez considérable et on va avoir des canons de plus en plus mobiles qui vont tirer à des cadences de plus en plus régulières. Donc bien sûr, ce vieux château avec ses grandes murailles, c'était très difficile à défendre, hein, puisqu'avec un boulet de canon, c'était assez aisé de faire un trou dans la maçonnerie pour rentrer dedans. Donc on va ramener d'Italie une nouvelle architecture, donc c'est ce qu'on appelle des défenses à l'italienne, puisqu'en Italie, ils avaient déjà, au XVIe siècle, ce type d'architecture devant leur château qui était beaucoup plus adapté à ces canons. Et donc, quand les rois français vont aller faire les guerres d'Italie, eh bien, ils vont ramener avec eux des architectes, des ingénieurs militaires, mais aussi des artistes. C'est comme ça que la première Renaissance française est arrivée ici. Mmh. Et à l'Île-Dieu, eh bien, le seigneur de l'île va sans doute ramener dans ses bagages, au retour de ses guerres d'Italie, un ingénieur militaire qui va construire devant le château, donc côté terre, une ceinture en forme d'étoile, donc une ceinture à l'italienne, avec cette forme d'étoile qui permettait, donc lorsqu'on mettait des canons défensifs derrière, de faire des tirs croisés et comme ça de défendre l'intégralité de la structure. Et en plus, à l'arrière de ce grand rempart en forme d'étoile, on avait un talus de terre et de pierre, donc même si les ennemis tiraient au canon sur cette architecture, ils ne pouvaient aucunement la percer. Donc voilà, on sait que quand cette structure va être mise en place, le château ne sera plus repris. Il va être assiégé, en tout cas cette ceinture va être assiégée, mais jamais les ennemis n'arriveront à passer.
Et ils sont assiégés par pas mal de monde. Il y a eu les Anglais, il y a eu des protestants.
Il y a eu les Espagnols, il y a eu les protestants, les protestants de la Chaume et de la Rochelle. Oui, il y a eu pas mal de débarquements. En tout cas, dans ce qu'on sait, il y en a eu plusieurs, mais il y en a sûrement beaucoup qui sont passés sous silence, faute d'archives. Hein. On a très très peu d'archives sur ces époques anciennes.
Ah, tout ça, c'est marqué dans le bouquin. Vous avez avec des jolies petites des illustrations. D'après des illustrations de Jean-Olivier Héron qui avait fait disons quelques temps.
Tout à fait, ouais,
correspondre réellement à ce que c'était. Ouais. Et puis il y a l'évolution, donc toujours au niveau de la défense, on passe du château, après l'évolution des armes fait que ce château devient obsolète, comme on dit. Et il est donc remplacé petit à petit par des redoutes. C'est pas des redoutes, mais c'est des petites casernes, des bastions.
C'est des redoutes. En fait, le problème, même si le château et sa ceinture à l'italienne étaient présents, ça n'empêchait toujours pas les ennemis de mettre le pied à l'île-dieu, donc de commettre tout un tas d'exactions sur les îlets. Donc c'est seulement au XVIIe siècle qu'une femme va changer les choses.
Ouais.
Cette femme, c'est la femme du seigneur de l'île-Dieu. Elle s'appelait Jeanne Pélagie de Rieux et son seigneur de Marie était décédé. Et donc c'est elle qui va décider de défendre enfin la côte abordable de l'île, là où avaient lieu les débarquements. Donc elle va faire construire entre Port-Joinville et la pointe des Corbeaux 7 redoutes à figure triangulaire. Donc c'est des sortes de petites défenses triangulaires dans lesquels on mettait des canons, et là, depuis la côte, là aussi avec des tirs croisés, eh bien, si des bateaux arrivaient, on les empêchait avec ces tirs de s'approcher des plages de débarquement.
Ah oui, on apprend aussi que Jeanne Pélagie en question s'était coquinée avec... Était, comme c'est bien dit, la secrétaire particulière d'un certain...
Nicolas Fouquet.
Voilà, très connu, et qui était un petit peu... dont le roi était un peu jaloux aussi, hein, d'ailleurs, parce que l'autre, il avait quand même une certaine fortune. Et donc, ils avaient un peu comploté aussi, en disant, bah ça, au cas où le roi nous met en disgrâce, on pourra se retrancher sur nos terres. Et elle, avait pensé à l'île-Dieu, c'est pour ça qu'elle faisait un peu la défense. Elle a fait croire que c'était pour la France, mais aussi c'était bien pour protéger, c'est bien aussi. Hein.
Tout à fait, ouais, c'est un complot qu'ils ont monté ensemble, qui s'appelle le complot de Saint-Mandé, qu'ils avaient écrit au château de Saint-Mandé, qui a été retrouvé d'ailleurs, écrit noir sur blanc, dans le château de Saint-Mandé, qui appartenait à Fouquet. Et forcément, ça ne va pas jouer en la faveur du procès de Fouquet, quoi qu'il en soit. Donc toutes les défenses qu'elle a pu faire à l'île-Dieu, ça lui a coûté très cher, à tel point qu'elle a dû revendre l'île, parce que voilà, elle n'avait plus d'argent, hein. Mais quand même... Pour la remercier, un certain temps, le port de l'île-Dieu a pris son nom. Il s'appelait le port de la Pélagie.
Ah, bah tu sais bien. Et puis après, on a continué, donc on a commencé à faire ces bastions. Ça n'a pas été perdu, puisque de toute façon, après, l'évolution de l'artillerie, l'évolution de l'art de la guerre, comme on peut dire. C'est comme art, je préfère d'autres arts que celui-là. Mais il fait que ce château devient désuet. Il est même d'ailleurs bombardé, enfin détruit un peu, pour éviter que des ennemis viennent s'y loger et fassent des camps retranchés.
Oui, alors évidemment, quand les redoutes côtières ont été construites, le château a été abandonné parce qu'il était vraiment complètement dépassé. Et on ne sait pas exactement quand il a été détruit. On sait qu'en 1705, dans les archives, il est expliqué qu'il était tout ruiné, donc c'est avant cette date. Mais on suppose que pour le détruire, on a fait venir des vaisseaux au large de l'île pour, en tirant au canon dessus, pour vraiment l'anéantir complètement. Parce que comme il était plus occupé, on avait peur qu'il tombe sans doute entre de mauvaises mains, que ce soit des ennemis ou des corsaires ou même des brigands, quels qu'ils soient. Donc en le détruisant, comme ça, on était sûr de notre coup et personne ne pouvait s'en resservir, même s'il était complètement obsolète. Ça aurait pu être quand même assez problématique.
Donc avec le temps, le joli château, le beau château, le grand château est devenu le vieux château. C'est ça. Et le vieux château, ben justement, c'est une chanson que Georges Brassens reprend. C'est une chanson de sa jeunesse. On va l'écouter avec ce vieux château.
Mon oncle Rodolphe avait 102 ans.
Il est mort dimanche.
Et le vieux chameau dans son testament
a pris sa revanche.
Tout l'argent que je guettais aux œuvres de charité,
moi je dois me contenter du château qu'il habitait.
Je l'ai visité, c'est un vieux château du Moyen-Âge avec un fantôme. À chaque étage, dans toutes les chambres d'amis, y a des souris sous les lits. Si vous n'en voyez pas, c'est parce qu'il y a des rats gros comme ça. C'est un vieux château, toto, cerné de corbeaux, bobo.
Le petit salon mesure à peu près 180 mètres. Il est ravissant, mais il y faudrait
des carreaux aux fenêtres. On s'éclaire à la bougie, on se lave avec l'eau de la pluie.
Et quand il n'a pas plu,
tant pis,
on reste sale entre amis.
Tout ça simplifie, c'est un vieux château, toto, un et le corbeau, bobo.
Dans ce vieux château, jamais aucun bruit.
L'histoire rapporte
qu'une l'impératrice y passa la nuit.
Et qu'elle en est morte,
quatre princes y sont nés,
et trois têtes couronnées y furent assassinées.
Mais il n'y a pas de cabinet
et pas de robinet. C'est un vieux château du Moyen-Âge avec un fantôme à chaque étage. Dans toutes les chambres d'amis, il y a des souris sous les lits. Si vous n'en voyez pas, c'est parce qu'il y a des rats.
Des rats, des rats, oh,
des rats gros comme ça. C'est un vieux château cerné de corbeaux.
Le vieux château par Monsieur Brassens. Ah oui, bah oui, j'étais en train de parler un petit peu quand même en même temps que la musique passait, excusez-moi, et de ce vieux château. Parce qu'on a aussi, nous, un vieux château à Neptune, mais il fait, ça sera le jeudi matin. Hein. Bon, c'est Gérard Château que vous connaissez bien sûr. Et c'est qu'on appelle nous notre vieux château. Il s'appelle d'ailleurs lui-même le vieux château. Mais on revient toujours avec Annabelle à son bouquin, donc dans ce bouquin de qui décrit l'histoire de la défense de l'île. Après le vieux château, donc il y a eu ces bastions qui ont eu un peu tout au long de la côte, presque autour hein, d'ailleurs. Mais il y a eu quelques-uns d'ailleurs aux vieilles. Il y en a eu, il y a un reste. On voit un petit reste de ces bastions aux vieilles, hein, c'est ça. Ah bah attends, bouge pas. Oui, tu peux recommencer.
Oui, c'est ça. Au centre de la plage des Vieilles, on a un rocher et dessus, si vous allez voir, on a les vestiges d'un ancien fort qui s'appelait le Fort des Dames, qui date du XVIIe siècle aussi, de l'époque de Jeanne Pélagie de Rieux, parce qu'un débarquement aurait pu se produire aussi sur cette grande plage. Hein, c'était plutôt pas mal pour débarquer. Donc quand elle va construire ses 7 redoutes côtières, il va y en avoir une autre qui va être construite sur la côte rocheuse, donc aux Vieilles.
Et alors j'ai appris un truc aussi dedans, c'est qu'il y avait des forts, puis ils avaient tous un nom, le nom des côtes. Il y en a qui s'appelait le fort des yeux ouverts.
Ça. Oui, ils avaient tous un nom, parce qu'il fallait bien sûr les nommer. Sur les cartes, notamment, on retrouve ces noms. Et oui, il y en avait un qui s'appelait le Fort des Yeux Ouverts, là-bas, à la Grande Conche, qui ensuite, avec le temps, ce fort a disparu, hein, cette redoute a disparu, mais elle a laissé son nom au site, puisque ça a donné de Fort des Yeux Ouverts, on est passé à la plage des Eaux Verts.
Voilà, alors il y en avait qui pensaient que c'était parce que les eaux étaient vertes, n'est-ce pas ?
Non, pas du tout.
On m'a dit aussi que parce que c'était à la plage des Eaux Verts, parce que les barres venaient se reproduire. Alors, production des barres, c'est ils lancent leurs semences dans l'eau et les femelles se roulent dedans. Mm-hmm. Alors, donc, c'était pour ça qu'ils appelaient ça à la plage. Alors, donc, en fin de compte, c'est bien les yeux ouverts, ça vient de là, quoi.
Sans doute, ouais.
Ah, on en apprend tous les jours, mais là, on nous a menti pendant des siècles et des siècles. Heureusement que tu es là. Alors, merci Annabelle. Franchement, moi, après, je me sens beau, je dors beaucoup mieux, je fais plus d'horribles cauchemars. Mais bon, mais non, je plaisante. Alors donc, il y a eu ça, puis après, il y a eu cette, donc, 19e siècle, 19e siècle, il y a eu le fort de la pierre levée.
Oui, c'est ça, en fait. Au début du 19e, en 1803, il y a une paix qui est signée entre la France et l'Angleterre, enfin. Mm-hmm. Mais ça va pas durer. Quelques mois plus tard, il va y avoir la rupture de cette paix qui s'appelait la paix d'Amiens. Et donc, les Anglais vont redevenir l'ennemi numéro un de la France. Et à l'époque, Napoléon va envoyer sur l'île un ami proche à lui qui s'appelle Henri Bertrand pour étudier toute l'île, mais alors sous toutes les coutures. Hein. Il a d'ailleurs rendu un rapport qui est extrêmement intéressant, qui est aux archives de Vincennes aujourd'hui. Et donc, son but à Henri Bertrand, c'était de proposer à Napoléon un nouveau plan de défense de l'île qui sera parfaitement adapté à l'évolution de l'artillerie. Donc, il va rester quelques mois sur l'île, il va revenir voir Napoléon, il va lui déposer ce plan de défense sur son bureau. Et Napoléon ne va vraiment pas attendre pour prendre des décisions, puisqu'il va envoyer quelques semaines plus tard, donc on est là en avril 1804, 1500 soldats sur l'île. Donc c'est un truc de fou, 1500 soldats. On avait à peu près le même nombre d'habitants. Donc on va multiplier la population par deux, avec que des beaux soldats.
Ah bah tiens, non.
Et ils vont se mettre au travail, effectivement, et ils vont créer sur l'île ce qu'avait préconisé le général Bertrand. Donc ils vont créer ce qu'il proposait, c'était une ceinture de feu, hein, c'est vraiment ces mots, tout autour de l'île. C'est-à-dire que là, il ne va plus seulement décider de défendre la côte sableuse, mais il va souhaiter défendre l'intégralité des côtes de l'île, y compris la côte rocheuse. Parce qu'au 19e, Les bateaux permettaient d'accéder à des baies parfois assez dangereuses, comme par exemple la plage des Sabias. Ouais. Et il aurait tout à fait pu être possible que l'ennemi mette pied à terre sur ce type de plage. Donc on va construire tout autour de la côte, là, 13 batteries différentes. Elles se voyaient toutes les unes les autres, et là aussi par des tirs de canon croisés, elles permettaient de défendre l'intégralité de cette côte. Mais attention, si jamais ces ennemis arrivaient à prendre une des batteries, il fallait pouvoir construire au centre de l'île un dernier retranchement. Mmh. Donc on va construire en même temps le tout premier fort de pierre levée, qui a complètement disparu aujourd'hui sous le fort qu'on connaît. Et donc ce premier fort, il était un petit peu moins bien fini que le fort actuel, mais beaucoup plus vaste au niveau de la taille. En fait, il englobait tout le bois de la citadelle d'aujourd'hui. Donc on avait au centre une structure quadrangulaire où on avait le dépôt de poudre. Mmh. Et puis à chaque angle, on avait des bastions avancés qui devaient être à l'origine armés de 21 canons. Et puis ça causait pas mal de problèmes d'amener ces canons sur l'île. Donc on y va se retrouver avec seulement 9 canons pour le défendre. D'accord. Et donc si jamais la côte était prise, les soldats venaient se réfugier dans ce fort central. Et ensuite ils attendaient de l'aide du continent, évidemment.
Ah. Et là après, donc c'est encore évolué, il y a tout ça, puis alors donc ce fort, il a quand même bien marqué on est au 19e siècle, il a servi à se défendre des Anglais, puis après il a servi aussi un peu de prison, il y a eu pas mal de choses, les communards en 1870, et puis en 14, il y a eu des prisonniers.
Hein, c'est ça. Alors ce premier fort, il va disparaître en 1858 quand on va construire le fort actuel, le fort de pierre levée, qui est lui beaucoup mieux fini avec vraiment des fossés extérieurs, des douves, une architecture parfaitement adaptée à l'évolution de l'artillerie, et il va servir un petit temps en fait à défendre l'île. Seulement jusqu'en 1912, puisqu'en 1912, bien sûr, le danger ne venait plus des Anglais à ce moment-là. Ben donc la frontière maritime était un petit peu moins importante à défendre. Oui. Et donc les soldats qui l'occupaient, le 93e régiment d'infanterie de La Roche-sur-Yon en 1912, à l'été 1912, ils vont complètement quitter l'île pour aller vers la frontière est de la France, évidemment. Et donc, après cette date, ce fort va servir de camp d'internement pendant la Première Guerre mondiale, et puis ensuite de prison sur plein d'époques, plein de conflits différents. Ouais.
Même les Basques, etc. Il y a eu plein de choses. Après la Deuxième Guerre, mais après, les plus grands constructeurs, en fin de compte, de fortifications à l'île-Dieu, c'était les Allemands pendant la guerre.
Oui.
La dernière, la 39-45, là, ils ont fait pas mal de béton. Hein.
Oui, alors ils ont construit aussi 13 batteries de côte qui portaient tout un nom d'une ville allemande. Donc on avait Danzig, Berlin, etc. Mmh. Et donc, effectivement, l'île-Dieu faisait partie du mur de l'Atlantique, mais c'était pas non plus une zone extrêmement importante pour les Allemands, même s'ils l'ont occupée, ils ont fait ces aménagements. Donc ils ont construit différents blockhaus en bord de côte, des canons, mais aussi des blockhaus qui permettaient de recevoir des grands projecteurs pour éclairer la nuit, la mer et bien sûr les airs, au cas où des avions ou des bateaux alliés venaient en approche de l'île. Et puis, ils vont aussi aménager autour du grand phare toute une plateforme de radar pour détecter la présence de bateaux ou d'avions à longue distance. Mmh. Donc là, c'est vraiment sur cette zone où on va avoir le plus d'infrastructures qui sera mise en place pour cette occupation allemande.
Et là, dans le bouquin, il y a tous les détails. Hein. On dit même le nombre d'armes, le type d'armes, etc. Attention, c'est très documenté, cette période-là. C'est plus récent, donc c'est plus facile de trouver des...
C'est ça, ouais. On a plus d'archives. Ouais. Et on a aussi, juste après la guerre, un moment qui est assez intéressant. On a beaucoup de contributeurs au service patrimoine, de gens qui viennent nous voir et qui possèdent des archives et qui nous confient en fait ces archives pour qu'on les numérise. On leur restitue bien sûr après la numérisation. Et notamment, donc à la fin du livre, je parle d'une période que je connaissais pas du tout moi dans l'histoire de l'île-Dieu, c'est le déminage de l'île.
Bah oui.
Donc on a la famille Marcia qui nous a confié donc les archives du démineur en chef de l'île-Dieu, qui était monsieur Pierre Marcia, qui en fait a gardé toutes ses correspondances, tous ses rapports, et c'est aujourd'hui sa fille qui nous les a amenés pour numérisation, et ça nous a permis de comprendre qu'ils ont enlevé pas moins de 16 000 mines à l'Île-Dieu, donc c'est quand même assez extrême. Voilà, ils expliquent comment ils les enlèvent, dans quelles conditions ils vivent aussi, les démineurs, hein, parce qu'après-guerre, c'est pas non plus trop la joie à l'Île-Dieu, comment ils sont logés, etc. Donc ça a été aussi une période assez complexe où ils ont dû creuser en fait à la bêche autour des sites défensifs allemands pour repérer donc après avec un détecteur de métaux les mines en place et tout. Ça a été un gros job.
Ah oui, c'est parce qu'on lit dans ce bouquin aussi qu'il y avait un petit problème. Enfin, quand les gens venaient, bien sûr, quand il y avait plusieurs milliers de soldats qui venaient, il fallait bien qu'ils se nourrissent, qu'ils chauffent, qu'ils se logent. Et c'était pas toujours facile. Et puis on apprend aussi qu'il y avait des poudrières qui sont dans les moulins, des choses comme ça. Je parle en haut de la rue du Nord, là, je croyais que c'était un moulin, en fin de compte, ce truc.
Ouais, en fait, c'est un moulin. On a le moulin de la Poudrière, là, près du quartier de la Solzay, mais à l'arrière, il y avait effectivement un dépôt de poudre qui permettait de conserver toute la poudre pour l'ensemble des canons de l'Île-Dieu. Donc, il avait une contenance assez importante. Et donc, aujourd'hui, le moulin qui se trouvait devant a pris son nom, le moulin de la Poudrière. Ça vient de là.
Le bouquin est bien illustré, très bien illustré. Il y a plein d'illustrations, il est très bien fait, il est agréable à lire en plus, c'est vrai, avec une belle édition dont on va parler bientôt d'ailleurs. Mais on va faire une petite pause, parce que maintenant, il y a encore de la défense sur l'Île-Dieu, mais c'est plus une défense, je dirais pas passive, mais pacifique, puisque je parle des guetteurs du sémaphore qui sont là et qui voient tout ça. Ça fait partie des défenses de l'Île-Dieu quelque part.
C'est ça, aujourd'hui, c'est ceux qui surveillent le pourtour de l'île.
Voilà, absolument. Et donc, justement, il y a une autre forteresse dans les chansons qui est vraiment, elle, alors on aimerait être dans cette forteresse, c'est celle que Michel Fugain chante. L'amour est une forteresse, comme c'est beau. On va mettre un petit peu de musique.
L'amour est une forteresse, dont les murs sont faits de promesses. C'est là que dorment les amants, cachés de tout, cachés du temps. Et quand leurs lèvres se rejoignent, c'est tout l'univers qui s'éloigne. Autour, le silence est parfait, comme un instant d'éternité. Tourne, le tourne, le tourne, le temps, tout autour des amants. L'amour est une forteresse dont les murs sont faits de tendresse, aussi fin qu'un papier de soie, mais qui ne se déchire pas. La peau et la peau qui se touchent, les mots qui naissent sur la bouche, disent tout bas comme un secret, qu'on peut tout prendre et tout donner. L'amour est une forteresse qu'il faut réinventer sans cesse, pour qui oublie de la rêver, elle disparaît à tout jamais. Si devant vous des amants passent, quoi qu'ils se disent ou quoi qu'ils fassent, ne vous posez pas de questions, l'amour a toujours ses raisons. Tourne, le tourne, le tourne, le temps, tout autour des amants. Tourne, le
Michel Fuyin, Forteresse. On va continuer, nous, bien le bouquin. Je crois qu'on arrive bientôt à la. Ben, on arrive à la fin du bouquin. Parce que puis je lui laisserai découvrir, du moins, en plus, ce bouquin. Parce qu'il faut le découvrir, n'est-ce pas, Annabelle, qu'est-ce que t'en penses?
Mais oui, et puis comme tu le disais très justement, on a plein d'illustrations. Ouais. Et je tiens, avant que j'arrête de parler, à remercier tous nos contributeurs du service patrimoine, car c'est grâce à eux que ce livre est si bien illustré. Mm-hmm. Et puis on a notamment Jean-Benoît Héron, qui nous a fait aussi de magnifiques illustrations. Mm-hmm. Donc voilà, grâce à tous ces contributeurs, on a pu en savoir beaucoup plus sur l'histoire de la défense de l'Île-Dieu. Et en plus, grâce à leurs illustrations, on a pu amener donc de très belles figures dans ce livre.
Et tout ça, c'est marqué dans le bouquin et on parle de ceux qui ont contribué. Mais le bouquin, il faut qu'il soit édité. T'as vu un petit peu la transition
hein. Et, ouais.
Et il est édité, et ça c'est merveilleux, édité sur l'Île-Dieu grâce à un monsieur qui a commencé, il y a combien de temps déjà que tu as commencé cette édition?
Ça fait deux grandes années, le premier livre date de juillet 2024.
Oui, c'était lequel? Parce que c'est celui de...
C'est le Silence de l'Île-Dieu, des aquarelles de Florence Daboville avec les petits poèmes de Monique Malissard façon IQ.
Ouais, d'accord, ok. Et puis après, il y a eu Vienne qui a fait son bouquin.
Patrick Vienne avec les évadés de l'île d'Oya.
Vraiment intéressant à lire, d'ailleurs. Moi, je me suis régalé à le lire. Et puis, là, cette année, je crois que c'est depuis un an, c'est une explosion de bouquins. Hein. On peut le dire.
Oui, cette année, on en est au sixième de l'année.
Ah oui, il y en a quand même pas mal. Hein. Et ils sont vraiment intéressants, hein, tous ces bouquins. Parce que, on peut citer un peu ceux qui ont écrit dans les éditions Ilaz.
Depuis le début de l'année, on a commencé au printemps avec trois romans. Mm-hmm. Charles-Alexis Mossa qui a écrit Le requin ventriloque.
Oui.
L'aventure en partie autobiographique d'un garçon de 17 ans qui embarque comme mousse pour aller faire une campagne de pêche au thon au large du Sénégal. Mm-hmm. Il y a des récits de pêche au thon. On sent l'odeur de la mer et des embruns.
D'accord.
Juste après, un second qui est Oya sur les traces de son père, donc d'Arnaud Renoux. Mm. Un auteur très, très créatif puisqu'il nous fait voyager depuis le Japon, Hiroshima, jusqu'à l'Île-Dieu sur une période de 60 ans.
Ah ben dis donc. Et puis avant, il y a eu deux bouquins aussi dont je me rappelle un peu aussi. C'est une fille qui avait fait des contes.
Oui.
Qui avait inventé des contes sur l'île parce que ça bouge toujours les contes. Et puis
J'avais une petite histoire de torpille d'Île-Dieu. Oui. Un bateau de pêche qui a des aventures pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Voilà, c'est celui-là. Il y a les deux frères qui s'en vont, il y en a un qui vient travailler à Saint-Nazaire, qui sert d'espion. Enfin, ça se lit bien, ça aussi. Hein.
C'est relativement court.
Ah, ouais, ouais,
c'est une après-midi de plage.
Oui, ça se lit bien, c'est des beaux bouquins. Donc, il y a plein de bouquins comme ça.
On a eu l'an dernier aussi Face à Tête Jaune.
Ouais.
Tête Jaune qui est le rocher à bâbord en sortant de la Meule. Mm-hmm. Qui a très bien marché parce qu'il a été sélectionné par les bibliothèques de Vendée. Mm-hmm. Et à ce titre, il a été invité au Printemps du Livre de Montaigu.
Ah ben quand même.
C'est le grand festival littéraire des Pays de la Loire, donc j'étais très fier qu'un de nos livres...
C'est vrai. En plus, il y a eu un bouquin qui a été écrit par des collégiens, celui-là.
Oui, donc ça c'est à Pâques. Mmh. L'Île-Dieu à l'encre noire, les élèves de 4e, qui ont écrit des petites nouvelles... Et qui sont, je trouve, très réussis.
Oui, c'est vrai, mais j'ai pas tout lu, parce que j'appelle ça, c'est mes bouquins homéopathiques. C'est-à-dire que quand tu lis des bouquins, puis tu as toujours un bouquin de côté pour une respiration comme cela. Et celui-là fait partie de ça parce que c'est des histoires courtes, hein, puisque c'est des petits contes, des petites choses qui sont sur 2-3 pages. Alors ça permet d'en lire un de temps en temps, puis tu te remets dedans quand tu veux, c'est bien, quoi. Et c'est vraiment, ils ont une imagination, ces gamins, c'est incroyable.
Oh. Mais une vision très noire de l'Île-Dieu.
Hein. Oh oui, mais enfin,
quand j'avais 13 ans, je rêvais de balade à vélo, de cabane, de plage. Il n'y a que des suicides, des meurtres, des revenants. Enfin, c'est
incroyable. Hein, alors.
La jeunesse a évolué. Hein,
oh, ouais. Je ne sais pas, mais enfin bon. Les garçons, la vie est belle. Enfin, je sais que, puisqu'on leur dit que c'est toujours noir, non, il y a des trucs bien quand même. Et donc, l'édition marche bien, ça va? C'est correct, oui.
Oui, bah c'est beaucoup de travail. Bah c'est, parce que 6 dans l'année et peut-être un petit 7e, je ne sais pas s'il sortira en début d'hiver ou l'année prochaine, mais peut-être en début d'hiver. C'est beaucoup de boulot.
Ah oui, il y a beaucoup de boulot. Pas facile parce que c'est pas facile, c'est les milieux d'édition, surtout quand on n'est pas un grand éditeur. Hein. Pas encore, mais ça va venir. Ce qui est intéressant, c'est que tous les bouquins qui sont édités dans les éditions Ilaz ont un rapport avec l'Île-Dieu.
Oui, Et c'est une très très bonne surprise. Quand j'ai démarré il y a à peine plus de 2 ans, je me disais, allez, si on arrive à en sortir 3 par an, ce sera très bien. Mm-hmm. Et en fait, il y a beaucoup de gens sur l'île Dieu qui écrivent sur l'île. Mm. Alors, on est à peu près à moitié-moitié entre résidents ilais à l'année et résidents secondaires, mais c'est quand même pas mal.
Bah oui, bien sûr.
Non, d'ailleurs, on est beaucoup plus d'ilais avec les quatrièmes, le collège.
Ah oui, maintenant, ils ont fait éclater la moyenne. Mais en fin de compte, ça se passe comment? C'est les gens qui viennent te contacter ou c'est toi qui démarches?
Très largement, c'est les gens qui me contactent, qui m'envoient leur manuscrit, qui disent voilà, j'ai écrit ça, qu'est-ce que vous en pensez?
Tu réponds non, c'est pas bon, Coco.
Ça m'est arrivé, parce que j'ai reçu des trucs qui n'avaient rien à voir.
Bah oui. Et puis
et
voilà.
Non, mais la plupart du temps, il y a. Parfois, c'est le texte peut être pris quasiment tel quel. Mmh. Parfois, il y a du travail, de réécriture. Oui. On a un comité de lecture qui commente. T'entends dans la marche, mais un grand bof. Il faut expliquer à l'auteur que c'est pas si grave,
bah oui.
Que le but c'est d'améliorer et que 3 pages après, il y a un grand bravo qui vient compenser le bof.
Bah oui.
Et ça se passe bien. L'auteur comprend, il accepte de reprendre un peu parfois son texte. Et...
Bah, je pense que quand on écrit, effectivement, on est dans son histoire. Et puis, bon, il y a peut-être des facilités pour écrire, puis d'autres moins. Et puis, là, la structure, la sémantique, la synthèse, etc. Bah, oui, tout ça compte. Et ça, c'est le boulot d'éditeur, ça. La relecture, c'est important.
Oui. Ça fait avec un comité de lecture, donc 6 personnes m'aident à relire les livres, mais qui sont anonymes. Voilà. Même sous la torture, je ne donnerai pas leur nom parce que l'idiot est trop petite.
Ah, nous avons des moins intentions.
Et je ne voudrais pas qu'il y ait des gens qui soient fâchés en disant oui, mais mon livre, t'as pas voulu ça.
Annabelle, tu ne connais pas un coin d'un citadel, on pourrait le mettre pour le torturer
Si, j'ai ça.
Enfin, en t'entendant, ben, grâce à toi, il y a des bouquins qui sortent. Il y a eu celui-là avec le patrimoine. Il y a quand même eu un autre bouquin qui avait été fait avec le patrimoine, c'est quand l'idiot était mis en boîte.
Il y a un an, on avait sorti le livre, oui, sur les conserveries, quand l'idiot mettait la mer en boîte, de Pascal Cario. Eh ben, j'espère bien qu'on va pouvoir continuer.
Oui, on va essayer de sortir un livre par an au service patrimoine, en tout cas en lien avec le patrimoine de l'île Dieu. Parce qu'il ne dit pas Benoît, mais à l'époque où il était élu au conseil municipal, il faisait partie de la commission culture et il nous disait très souvent, oh là là, vous faites plein de choses au service patrimoine et c'est dommage qu'on ne puisse pas valoriser ça sous d'autres biais, en dehors des visites, des panneaux de valo, etc. Et il a eu cette idée de monter ensuite à sa boîte d'édition. Donc c'est lui qui est venu nous chercher pour les livres du patrimoine. Et donc, moi j'aimerais bien qu'on en sorte un par an. Alors on va tourner au niveau des auteurs. Mais c'est vrai que c'est une autre façon d'amener le patrimoine de l'île Dieu et de le valoriser auprès des publics. C'est vraiment chouette.
Et ça sert parce qu'il y a nombre de gens qui viennent à l'île Dieu, même en vacances, et qui ne connaissent pas l'île Dieu, et ils croient que, je sais pas, ils ont des fables sur ce qu'on croit. C'est pour ça qu'on a la chance maintenant d'avoir un éditeur à l'île Dieu qui publie des bouquins du patrimoine, presque un tous les ans. Et puis, il y a maintenant le pôle culturel, ça va avec, quoi, c'est ça, hein.
C'est ça, ouais, l'un va pas sans l'autre. C'est pour ça d'ailleurs que moi je fais des conférences là tous les jeudis. Donc je faisais les mardis de l'archéologie au printemps et là on est passé au jeudi de l'histoire, donc tous les jeudis à 18h30 sur un thème en lien avec l'histoire de l'île Dieu. Donc soit c'est moi qui fais les conférences, soit c'est Romane, notre chargée d'exposition, soit c'est des conférenciers qu'on fait venir en fait ou qui se proposent pour parler d'un thème historique pendant ces jeudis.
Donc le jeudi prochain, c'est la suite. Enfin, c'est pas le bouquin qui a raconté mot à mot, mais c'est en plus intéressant, c'est les diapos et tout ça. On voit plus grand que dans le bouquin. Hein. Il y a des trucs qui sont vraiment intéressants. Puis bon, tu expliques on peut te poser des questions. Mais voilà.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est bien sûr beaucoup plus, c'est moins en détail que dans le livre. Mais oui, le jeudi prochain, je fais la suite. Donc là, la dernière conférence, je suis allée des Gaulois jusqu'au premier fort de Pierre-Levé. Et là, on va partir. Pour jeudi, du deuxième fort de Pierre-Levé jusqu'au déminage de l'île.
Voilà.
À 18h30.
À 18h30 précise, hein, parce que faut pas venir un peu après, on comprend plus, faut être là.
Donc,
parce
que... c'est à l'auditorium du pôle culturel. Ouais. Hein,
pour et c'est gratuit, il faut pas l'oublier.
Ah oui, mais c'est gratuit.
Ça dure une heure, c'est gratuit. Et puis justement, le bouquin sera en vente là. Hein.
Oui, Benoît sera là.
Sur place. Hein, donc, et autrement, vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies.
À
la maison de la presse, à la fabrique.
Oui. Et ceux qui nous écoutent à l'extérieur de l'île, est-ce qu'ils peuvent le trouver quelque part, est-ce qu'il y a des points de vente?
Alors à Chaland, il est à l'Espace des Prés, qui est une librairie de Chaland. Mm-hmm. Et sinon, sur le site internet, on fait de la vente en ligne.
D'accord.
Ça prend parfois un peu de temps, parce que la poste est un peu lente en ce moment.
Bah, c'est pas,
mais
c'est pas
un peu, c'est en un peu, une c'est semaine, beaucoup. Il devrait le recevoir.
Oui, normalement, une semaine, mais nous, le truc qu'on attend déjà depuis quelques temps. Ouais. Et je sais pas ce qu'il y a, il y avait un truc. Je te rappelle donc, on va passer une petite chanson, mais après, on va vous remettre ça, on aura le temps d'avancer, de dire au revoir, parce que, oh là, il est quelle heure déjà?
Oh, bah, alors, une petite chanson alors.
Non, on va même pas passer de chanson, on va continuer parce que j'y arrive pas le temps. Parce que c'était une chanson qui s'appelle Écrire, dit-elle. Bah écoutez, vous aurez qu'à écouter Neptune lundi matin et le mardi, j'y passerai plus tard, ces chansons-là. Ton site, alors c'est. Je l'ai moi sur le marque
alors,
de la page.
C'est édition.ilaise.fr.
Oui.
Et c'est au singulier.
Et aussi au singulier.
Il n'y a pas de S. Ni à édition, ni à ilaise.
Ouais, et édition. Que c'est pas
oui, sans accent.
Ouais, et minuscule en accent. Ça, c'est ça. Pour les conférences, pour les balades les balades savantes, n'est-ce pas? Annabelle, c'est où? On voit ça au pôle culturel? C'est marqué où ça?
Alors, c'est sur le site de l'Office de tourisme surtout. Mm-hmm. Hein, ils nous référencent tout, nos sorties, mais aussi les conférences. Mm-hmm. Donc voilà. Et puis, on a bien sûr notre exposition sur l'histoire de la caserne des pompiers de l'Île-Dieu,
oui,
qui est ouverte sur les mêmes horaires que la médiathèque.
Ben, Romane est venue nous en parler la semaine dernière.
Oui, ouais, elle était très contente d'ailleurs, merci. Je vous conseille, si vous allez voir cette exposition, Romane et Olivier Galdra d'Oya Film ont fait un super beau film sur les pompiers. Ils ont fait des interviews et tout. Et donc, en même temps qu'est ouverte l'expo, vous pouvez aller dans l'auditorium, puisque en parallèle est diffusé ce film. Et je vous conseille de prendre un petit temps pour aller le voir.
Ben oui, ben, je voulais aller le voir. Puis je voulais. Enfin, le vicieux, il voulait venir le voir juste avant que tu fasses ta conférence. Sauf qu'il n'y passe pas juste avant.
Bah non. Ouais.
Alors j'ai pleuré, forcément.
Bah, t'as jusqu'aux vacances de la Toussaint. On ferme l'expo à la fin des vacances de la Toussaint.
J'irai le voir, il n'y a pas de problème. J'ai tout le temps. Mais j'irai le voir, le film. C'est sympa. Quoi. Parce que c'est vrai que, d'abord, je reviens toujours à ce lieu. C'est un beau lieu. Et il se passe vraiment, vraiment, vraiment plein de choses. Sachez que tout est gratuit. Hein, il n'y a pas de problème. Vous apprenez aussi pour cette exposition, je reviens à celle des pompiers, parce que ce matin, il y a une personne que je connais bien qui a entendu des gens qui racontaient des bêtises en attendant d'acheter leur pain. Il y a deux dames qui discutaient en disant « Ah ouais, mais les dieux, heureusement, il faut faire attention, hein, faut pas, parce que le feu, parce qu'il n'y a pas de pompiers à les dieux. » Bon. Puis après, c'est bien qu'il y avait des pompiers, mais ils n'avaient pas de matériel. Alors, mesdames et messieurs qui venaient à l'Île-Dieu en vacances, si vous écoutez Neptune, sachez quand même que il y a des choses qui se passent à l'Île-Dieu et que justement, dans ce pôle culturel, on va vous apprendre qu'il y a des pompiers qui ont du matériel, même plus que, enfin tout. Si vous voulez écouter l'émission en podcast, ça passe sur Neptune FM aussi. Il y a plein de choses et c'est bien. Il suffit de parler, de dire bonjour aux gens. Généralement, ça va tout seul. Mais c'est vrai que souvent, ils vont, d'accord. Enfin, il y a des gens qui disent bonjour, hein, j'en ai reconnu, parce qu'à vélo, ce matin, je dis bonjour et ils répondent. Il y en a par contre, ils regardent, ils ne te voient pas. Mais bon, ça, c'est normal.
Mais c'est comme partout, il y a plein de gens super sympas, puis il y a toujours un petit pourcentage pas facile.
Ah, bah voilà, c'est pas du bizarre, mais enfin, c'est comme ça. En attendant, vous avez d'autres choses à dire? Vous le dites tout.
Bah, merci de ton accueil, merci beaucoup.
Il est grand temps que je mette ça. Attendez, ne bougez pas. Ça y est, c'est parti. Bon, on peut parler encore deux minutes, hein, c'est bon. Alors, donc, moi, je vous remercie d'être venu. Vous savez, bien sûr, que la Neptune, c'est toujours ouvert, hein, il n'y a pas de problème. Que si vous avez quelque chose à dire, il faut le dire. Moi, Benoît, je te remercie beaucoup d'être là aussi, parce que tu viens quand tu veux aussi pour parler de tes bouquins.
C'est gentil.
C'est vraiment intéressant. Ils sont intéressants à lire, les bouquins. Franchement, allez-y, vous ne serez pas déçus, vous allez apprendre plein de trucs. Il y a différentes façons, justement, c'est des regards différents sur les lieux des gens qui écrivent. Justement, et toi, tu leur permets de s'exprimer.
Hein. Oui, et puis l'intérêt, c'est que les bouquins, ça dure.
Oui,
ça se prête. Contrairement à une exposition, une conférence, un bouquin, ça dure.
Oui.
Et dans un siècle et demi, quand Annabelle sera enterrée à la Gournaise avec les doigts de pied qui dépassent, chez ses copains squelettes, son bouquin, on le trouvera encore à la Bibliothèque nationale de France, on pourra demander une copie.
Ouais, c'est ça, et puis on va dire,
c'est durable.
et c'est vrai que non, mais c'est vraiment intéressant et on passe un bon moment. Les bouquins, c'est intéressant. C'est pas nous qui allons dire le contraire. Écoutez, je vous remercie de venir comme ça régulièrement, de parler de ces choses-là. Et puis voilà, c'est Neptune FM. Moi, je parle plus des bouquins. Il y a Didier qui parle plus du sport. Et on a chacun notre petite spécialité. Bon, voilà, c'est comme cela. Alors, merci, merci d'être venu. Quand vous voulez, on revient. On aura bien l'occasion de reparler d'autres choses, hein, à longueur de temps. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, bon été, hein. Que tes bouquins connaissent un succès légitime. Oui. Hein, et puis, parce que, non, mais c'est vrai que moi, je reviens, c'est sympa comme tout, quoi. Donc, ça a le mérite d'exister et c'est vraiment très bien.
Merci. Merci.